j'expliquais un jour dans une conférence à Paris la manière dont je tenais mon blog, ma page internet du site de mon diocèse. Et lorsque j'ai eu terminé ma conférence, quelqu'un est venu me voir en me disant « Mais ce que vous écrivez sur la parole de Dieu, le petit commentaire, ça a la dimension d'un tweet ». Alors j'ai demandé c'est quoi Twitter, j'ai un peu entendu parler, mais j'ose pas me mettre sur ce réseau. Et quand j'ai vu de quoi il retournait, bien je me suis immédiatement inscrit, c'était exactement il y a 3 ans, puisque c'était le 23 janvier 2011. Donc j'ai essayé d'être régulier, tous les jours de mettre cette petite homélie, et de garder ma posture d'évêque, avec une déontologie précise, et de rester vraiment celui qui annonce d'abord la parole de Dieu. Et donc c'est vrai aussi que j'étais parmi ceux qui disaient à Rome qu'il fallait que le pape y soit, et je me suis réjoui quand le pape Benoît XVI s'est mis sur Twitter, parce que ça a été comme une confirmation, non seulement pour moi, mais pour beaucoup de blogueurs catholiques, de tweetos catholiques, lorsqu'il avait dit dans la substance de brefs messages, on peut exprimer des pensées profondes, et finalement ça nous a permis de dire, oui, on peut habiter ce réseau, ce n'est pas interdit, et c'est vraiment une manière d'être présent, comme Jésus était présent dans tous les milieux qu'il rencontrait de ville en village.
Vous êtes donc l'inventeur de la tweetomélie, qu'est-ce que c'est ?
J'ai pris ce mot de tweetomélie, j'ai beaucoup réfléchi le 23 janvier 2011, je me suis dit tweetomélie, c'est pas une homélie, donc en mettant le mot tweet devant, ça voulait bien dire que c'était pas tout à fait une homélie se dit en direct, mais en même temps c'est bien une homélie parce que je la dis aussi chaque jour aux personnes à qui je dis la messe et avec qui je célèbre l'Eucharistie. Donc c'est bien de l'ordre de l'homélie, et sur Twitter, donc une homélie sur Twitter. Et j'ai trouvé que le mot allait bien, j'ai enlevé simplement le H pour que ça soit plus simple en italien, j'ai essayé de penser ça un peu plus universellement, et voilà, ça a donné un hashtag, comme on dit, un mot dièse, c'est-à-dire un mot-clé qu'on peut retrouver, et beaucoup maintenant en Italie, mais aussi des Français, des prêtres, des fidèles laïcs, ont repris ce mot tweetomélie lorsqu'il commente la parole de Dieu.
Et quel est le profil des personnes qui sont abonnées à votre compte ?
J'ai plus de 5000 abonnés de 40 pays différents. Donc il y a notamment beaucoup d'Italiens, d'Espagnols, mais aussi beaucoup d'Amérique du Sud et du Québec, et puis évidemment majoritairement de France. Ce sont des profils de jeunes, principalement des 25-45 ans. Je commence à voir apparaître des personnes un peu plus âgées qui ont du temps et qui commencent à aller sur ces réseaux sociaux, dont Twitter, et qui découvrent qu'il y a la présence aussi d'un lieu de spiritualité, qu'il y a des petites perles évangéliques, et que ça peut être aussi un service à leur rendre que d'y être présent.
Et justement, quel dialogue vous avez installé avec vos différents followers, comme on dit, ceux qui vous suivent sur Twitter ?
Petit à petit, certains découvrant qu'il y avait un évêque, ont demandé à les rencontrer. Il y a eu par exemple les blogueurs catholiques qui se sont rencontrés à l'occasion de ce qu'ils appellent la fraternité des amis de Saint-Médard. C'était une occasion où ils pouvaient à la fois prier, aller à la messe, et ces blogueurs partageaient et tout. Et un jour, ils m'ont beaucoup, beaucoup invité à venir, et je suis venu. Ce qui m'a permis de connaître les visages de ceux qui avaient des pseudonymes, et ils m'ont beaucoup remercié de venir les rencontrer, de leur parler, parce qu'ils se sont sentis encouragés à bloguer, c'est-à-dire à donner leurs réflexions, à admettre des commentaires, parfois difficiles, sur des sujets de société ou politique. Et c'est ainsi que, petit à petit, j'en ai rencontré un certain nombre. Évidemment, je ne l'ai pas rencontré les 5000 qui me suivent, mais j'en connais quand même quelques centaines.
Et quel regard vous portez donc aujourd'hui sur les tweets du pape François ?
Ce qui est apprécié et appréciable, c'est qu'il sait trouver des mots simples et toucher les gens. Ce sont des petites perles qui sont comprises par tous. Il vise vraiment ces 10 millions d'abonnés, et je trouve qu'il a un langage, des images, des sentiments, des idées. Il parle souvent de la tendresse, par exemple, et qui sont comprises de tous. Et ça, je trouve que c'est très important. Je souhaiterais maintenant, peut-être, qu'il y ait aussi un lien vers ces principaux textes ou messages pour qu'on puisse aller lire un peu plus, pour qu'on n'en reste pas simplement à un tweet, mais un texte un peu plus long, profond. Et c'est ce que je trouve l'intérêt de Twitter, c'est que c'est un lieu d'information très précis et très avancé.
Et quel changement avez-vous remarqué depuis que vous tweetez ?
J'ai élargi d'une certaine manière ma mission, non seulement à mon diocèse, mais à plus large que mon diocèse. Un évêque, c'est vrai qu'il est évêque d'un diocèse, principalement, mais il est aussi membre du collège des évêques. Et donc, c'est vrai qu'on doit avoir une sollicitude, dit le Concile, une sollicitude pour l'Église universelle. Donc, c'est ma manière d'avoir cette sollicitude vis-à-vis de l'Église universelle que de transmettre cette petite parole sur Twitter. Ça a changé quand même aussi mon rapport à l'information. Je m'informe à partir de mon fil Twitter qui me sert de fil d'information. Et puis ça a changé aussi mon rapport à la communication. J'essaye d'être plus positif encore, de respecter encore plus les points de vue des autres, de dire plus mais en peu de mots. J'essaie de prendre au sérieux ceux qui ont des idées différentes que je lis sur le fil de Twitter aussi. Ça transforme un certain nombre de pratiques, du moins ça les prolonge, ça les épanouit un peu plus, puisque ça a changé aussi beaucoup, c'est que depuis 3 ans, ça m'a fait connaître publiquement, c'était pas cherché, mais j'ai donné beaucoup d'interviews, beaucoup de radios, de télé, de magazines, donc il faut gérer aussi un peu ça, parce qu'on est un peu plus exposé, et mon but c'est quand même d'abord de servir l'évangile, de servir la parole de Dieu, c'est pas de me montrer.
Est-ce que vous savez si d'autres évêques ont pris votre suite maintenant et qui se sont mis sur Twitter ?
Alors au début, les évêques étaient un petit peu méfiants tout de même. Peut-être parce que, bon, ça remonte à loin, mais il y avait eu le procès que j'avais fait contre Facebook. Et certains me disaient, mais tu as eu ce problème et tu continues sur Twitter. En fait, moi, je n'étais pas sur Facebook quand j'ai eu ce problème. C'était une question d'usurpation d'identité. Mais j'ai dit, c'est pas parce qu'il y a eu un accident qui n'était pas de ma faute que je ne reprends pas ma voiture. Et là, c'est même pas ma voiture. Je prends une moto, enfin c'est autre chose. Twitter, c'est un autre type de réseau ou de médias sociaux, ça n'a rien à voir avec Facebook. Et petit à petit, je leur ai expliqué ce que c'était, ce que je faisais. Et on a un peu moins souri de ma pratique quand les papes s'y sont mis. Et puis quand on a vu aussi que dans les informations en France, on parlait beaucoup de Twitter, on a lu sur Twitter. Donc c'est quelque chose qui s'est fait par capillarité. Maintenant, tout le monde connaît un peu ce mot-là. Et donc, maintenant, il y a 12-13 évêques qui sont sur Twitter. Alors, tous ne tweetent pas eux-mêmes. Certains, c'est leur directeur de la communication. Mais moi, je tiens vraiment à ce que ça soit ma propre parole. J'ai voulu toujours avoir une déontologie très stricte. C'est-à-dire, je tweete en tant qu'évêque et je ne tweete que sur la parole de Dieu, principalement. De temps en temps, je peux retweeter telle ou telle parole du pape avec un texte, mais c'est assez rare pour ne pas trop aller vers l'actualité ou parce que ça serait trop envahissant pour le peu de temps que j'ai.
Et donc, vous avez même écrit un livre dessus. Pourquoi ?
Alors, en fait, un certain nombre de personnes ont su que j'écrivais ces petites homélies sur mon site et puis sur Twitter et m'ont demandé si le livre existait. Alors, j'ai dit non. Alors, j'ai commencé, en fait, à éditer un livre sur Internet. J'ai pu offrir à mes neveux, nièces, pour voir l'écho que ça avait. Et puis, je me suis aperçu que des gens le demandaient. Et je me suis dit qu'au bout de 3 ans, j'avais fait le tour de l'horloge, je pouvais éditer mes 1000 tweets homélies. Et d'une certaine manière, comme je dis, c'est un objet qui n'est ni connecté et qui n'a pas de batterie non plus. Et il suffit d'avoir un doigt, c'est digital aussi. Mais on peut l'avoir à la portée de la main, on peut le laisser traîner devant une permanence ou n'importe. Les gens peuvent en lire 2-3. Et le livre reste pour moi quand même un média aussi important. Et je pense que ça se complète. D'ailleurs, on l'a bien vu dans l'histoire des communications sociales. Le cinéma n'a pas été tué par la télévision. Et puis, le cinéma et la télévision n'ont pas été tués par Internet. Mais tout ça se complète et il y a des convergences qui se font.